Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Quand on pense au transport du futur, on imagine souvent des avions à hydrogène ou des voitures électriques autonomes, mais pas des bateaux à voile. Et pourtant, face à la raréfaction du pétrole, la nécessité de baisser nos émissions de CO2 et de concevoir des technologies plus low-tech, le transport vélique est une vraie solution bas carbone pour le fret, où la France a de sérieuses cartes à jouer. On parle de ce nouveau type de transport, de ses enjeux et des opportunités que cela représente en termes d'emploi, avec Stéphane Gallard de l'entreprise Grand Sail, dont le premier navire s'apprête à partir en novembre. Bonne écoute! Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Vous êtes directeur marketing chez Grand Sail, une entreprise pionnière en matière de mobilité maritime bas carbone, mais aussi responsable et éthique en tant que producteur de café, chocolat et vin. Je vous propose d'explorer ensemble le secteur du transport maritime, d'en comprendre les enjeux et de voir comment il est possible de s'engager de manière écologique et responsable dans ce métier. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors bon, moi je suis effectivement le directeur marketing de Grand Sail. On va plutôt parler de Grand Sail, ce qui est quand même le plus intéressant dans l'histoire. Grand Sail, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 sur un concept qui a à peu près 10 ans, le temps d'un peu mettre les choses en place. Et la genèse de l'entreprise, c'est de pouvoir faire du transport à la voile. Le transport à la voile, c'est facile à dire, un petit peu plus compliqué à faire, puisqu'il faut réussir, avant de pouvoir lancer la construction d'un chantier pour le navire, de réussir à remplir les cales, en fait, tout simplement, pour pouvoir financièrement lancer la construction. Et donc, il y a deux façons de le faire. Soit on va chercher en fait des contrats pour transporter des choses pour autrui, et fort de ces contrats, on pourra ensuite procéder au financement. Soit, ce qui a été l'approche de Grand Sail, on crée un fonds de commerce en fait pour générer des besoins en transport. Donc en 2013, Grand Sail démarre avec des cafés, ensuite en 2016 avec des chocolats, et à partir de 2018, on lance le chantier de construction du navire. Et pourquoi des cafés et des chocolats ? À l'origine, les fondateurs de l'entreprise ne sont pas du tout chocolatiers ni torréfacteurs, proviennent plutôt du monde des énergies renouvelables et du monde marin. Et donc, le constat était tout simplement que pour que le projet ait du sens et que ce soit économiquement viable, il faut transporter et surtout aller chercher des produits, des matières premières qui proviennent de loin. Donc ça, c'est évidemment la première contrainte. Et la deuxième, qui puisse apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on ne va pas transporter juste de la matière première, une commodité de matière première. Il faut que ce soit un produit que l'on puisse transformer, auquel on va pouvoir rajouter un peu de valeur et du coup pouvoir absorber le surcoût, parce que soyons honnêtes, c'est un surcoût, que le transport à la voile va engendrer. Donc, à force d'étudier la question, ils se sont dit, mais voilà, des produits que l'on consomme tous les jours, parce que c'est aussi ça un petit peu l'intérêt. Donc café, chocolat, des produits qui viennent de loin, bah, effectivement Amérique latine, et des produits que l'on peut transformer, sur lesquels on peut ajouter une valeur et rendre toute la démarche économiquement viable. Et donc c'est un peu comme ça que le projet a démarré. Alors c'est assez marrant quand on l'explique comme ça, évidemment c'est un petit peu plus complexe dans la réalité, mais surtout, ça nécessite de regrouper plusieurs métiers, parce qu'on est d'une part une entreprise agroalimentaire, on transforme des matières premières et on les distribue dans des magasins, Et donc ça, c'est un métier vraiment à part. Donc torréfacteur de café et chocolatier, couverturier même, c'est un métier qui peut s'apprendre, mais qu'il faut être entouré de professionnels. Et clairement, les fondateurs de l'entreprise n'étaient pas issus de ces domaines-là. Et puis, d'autre part, évidemment, armateur, puisqu'il fallait construire le navire et maintenant le gérer. Donc, ce sont plein de métiers qui se regroupent. On appelle ça une intégration verticale, puisqu'on va s'occuper en amont de toute la partie transport, ensuite de la partie transformation et au final de la partie distribution dans les points de vente.
Alors, je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce qu'effectivement, on va pouvoir parler de deux métiers à la fois, celui du transport maritime, mais aussi celui de producteur responsable et de producteur, en l'occurrence, donc de café et de chocolat. Je vous propose de nous intéresser d'abord au métier de transporteur maritime, essayer de comprendre un petit peu déjà ce secteur. Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que vous êtes un ovni, pourquoi vous avez décidé de faire les choses différemment et comment ça se passe?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transport, de manière générale, que ce soit terrien ou maritime, ce sont des domaines qui sont antiques, enfin antiques entre guillemets, c'est-à-dire qui sont très bien instaurés depuis des décennies, voire plus, et que donc, fort de toutes ces années d'expérience, ce sont des modèles économiques qui sont vraiment ultra affûtés. Donc, il y a peu de pertes dans ces systèmes, en tout cas d'un point de vue économique. Une des raisons premières pourquoi le transport maritime à la voile de marchandises ne s'est pas imposé, c'est qu'il y a un surcoût. Et donc, économiquement, ça devient très difficile de trouver cet équilibre. Donc, ça, c'est un des premiers obstacles qu'il faut réussir à franchir.
Alors, juste, pardon,
Allez-y.
par rapport à ce surcoût, qu'est-ce que ça représente en fait ce surcoût? Il vient d'où? Juste pour qu'on essaie de comprendre un peu pourquoi enfin, c'est plus difficile de le faire à la voile que de manière un peu traditionnelle. Et qu'est-ce que c'est en fait la manière plus traditionnelle?
Alors, la manière traditionnelle, c'est par cargo, hein, tout simplement. Ce sont les gros cargos qui vont faire 150, 200 mètres et transporter des centaines de tonnes. Et donc, le coût du transport est dilué sur l'ensemble des marchandises qui sont transportées. Et donc, le coût du transport lui-même devient très faible à l'unité. Très 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 faible. Et alors par contre, on va mettre de côté pour l'instant la question et la dimension écologique. Mais sur le côté purement économique, ce sont vraiment ce sont des machines de guerre économique. Ce qui fait que c'est ultra efficace. Et quand on arrive avec des navires qui sont différents. Alors, au-delà même du transport, c'est que puisqu'il y a toute une infrastructure autour de ça, les coûts de production également sont plus faibles sur ces types de navires. Nous, on démarre sur des projets qui sont différents, donc qui ne rentrent pas dans les mêmes cases. Donc, il y a du surcoût au niveau de la production, de la fabrication même des navires. Et on ne va pas immédiatement se lancer sur des navires qui font 150 mètres et avec des capacités de charge qui sont extrêmement importantes. Donc, puisque les navires sont aussi plus modestes, le coût à l'unité était effectivement plus élevé. Nous, sur une tablette, alors aujourd'hui, ça c'est basé sur des estimations à partir du premier navire que l'on a construit, qui a une capacité de charge de 50 tonnes maximale, ce qui nous permet de rapatrier en France, puisqu'on fait deux traversées par an, entre 65 et 90 tonnes peut-être, parce qu'on ne peut pas tout à fait charger à 100% de la cale, puisque voilà, il y a un peu de perte. Forcément, quand on organise les choses, c'est un petit peu un puzzle, donc on n'arrive jamais à complètement caler tout parfaitement. Mais bon, entre 65 et 80, 90 tonnes de matières premières par an, ce qui nous permet de fabriquer, allez, on va dire, pas loin des 2 millions de tablettes par an. Sur des quantités comme ça, on estime à peu près 10 centimes le surcoût de ce transport. ce qui est faible sur un produit plaisir tel que le chocolat. Mais ce serait beaucoup, par exemple, sur d'autres types de produits. Et ça pourrait devenir prohibitif, notamment quand on parle de matières premières qui n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée. On peut imaginer, on nous avait déjà posé la question, pourquoi pas transporter des bananes, par exemple. Bah là, 10 centimes sur une banane, ça fait une grosse différence. Là, on n'est plus du tout sur les mêmes grandeurs et sur les mêmes proportions. Donc, c'est vraiment une équation économique qui rend le transport à la voile aujourd'hui compliqué. Pourquoi on est un OVNI ? Parce que on est le premier voilier cargo, donc c'est-à-dire un voilier qui est normé pour la marine marchande internationale au monde, tout simplement. Donc on est le premier voilier qui va pouvoir faire du transport de marchandises, tout simplement. Donc ça nécessite beaucoup de réflexion sur la conception d'un tel navire, tout d'abord. Au-delà de la construction en tant que telle, il y a plein de questions sur les dimensions, on va dire, législatives ou légales, juridiques, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de cadre pour le transport de marchandises à la voile. Il y a des cadres pour les cargos, il y a un cadre pour le transport de personnes, donc le transport de plaisance à la voile, mais il n'y a pas de cadre pour le transport de marchandises à la voile. Et donc, on a dû travailler avec différents partenaires, notamment les affaires maritimes, des bureaux d'études, des architectes navals, etc., pour interpréter des textes, en fait, et réussir à appliquer, en fait, des textes qui n'étaient pas tout à fait applicables. Donc, à terme, on s'attend à ce qu'il y aura un cadre législatif qui sera déterminé pour encadrer, parce que, fort heureusement, même si on est les premiers, on n'est pas les seuls. Et donc, c'est là où ça devient important, justement, de pouvoir légiférer et apporter un cadre spécifique. Parce que les normes telles qu'elles sont rédigées ne sont pas forcément applicables au travail que nous, on va faire. Donc, là, on a d'une certaine manière, on va dire, un petit peu essuyé les plâtres. Et donc, ce sont d'autant plus d'obstacles qui sont difficiles à franchir. Donc, clairement, dès qu'il y en a un qui l'a fait, la voie est ouverte et ce sera plus facile pour les autres et pour nous-mêmes, puisqu'on a démarré avec un navire. Mais on est déjà en train de concevoir un deuxième navire qui, lui, du coup, sera plus gros. Là, donc, j'ai expliqué sur le premier navire, on a une capacité de charge qui est à peu près de 50 tonnes. Le deuxième, on envisage, sur la conception initiale, là, on est parti sur un cahier des charges pour pouvoir transporter 250 tonnes.
Ah oui, on n'est pas du tout sur les mêmes capacités.
Exactement. Et il y a d'autres projets qui, eux, sont même plus déjà. Donc ça, c'est... Voilà, il va falloir, quand on fait sur un petit navire... Alors, il y a certaines choses qui sont plus complexes, certaines choses qui sont plus faciles. Mais clairement, quand on rentre dans des plus gros navires avec plus de marchandises, etc., etc., et puis surtout plus d'acteurs, on se rend bien compte de la nécessité de pouvoir avoir un cadre juridique qui est clair, aussi bien pour les autorités qui vont valider et donner les permis de navigation, que pour les constructeurs qui vont savoir ce qu'il faut faire, sur quel texte s'appuyer pour prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que nous, on a dû à certains moments, en fait, reprendre des dessins du navire, changer des équipements qui avaient été prévus, etc., parce que voilà, on n'avait pas forcément la visibilité initialement. Donc, on l'a appris en faisant. Le navire, on avait prévu un an de construction, il aura pris 2 ans. Quand on est le premier, quand on est un peu le pionnier, eh bien on défriche le terrain. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on est membre par exemple de l'association Windship, une association française qui regroupe différents acteurs justement du transport de marchandises à la voile. Et donc on œuvre aussi à partager et à faire bénéficier les autres de l'expérience que l'on a eue. Donc chacun aura ses propres obstacles, ses propres sa propre expérience à se faire, etc. Mais ce retour déjà d'expérience est important pour faire avancer toute la démarche et toute la filière de transport maritime à la voile.
Et alors, je me posais la question aussi au niveau des infrastructures. Déjà, est-ce que vous pouvez utiliser les mêmes ports que les bateaux de fret actuels, les cargos? Est-ce que vous utilisez les mêmes routes entre l'Amérique latine et la France? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, nous, on a fait le choix initialement, ce qui est corrélé en fait à notre besoin en production. Donc, on a un navire qui est relativement modeste. On parle souvent d'un gros voilier et d'un petit cargo. Donc, c'est un navire qui fait 24 mètres à peu près, avec des mâts de 24 mètres également d'ailleurs. Un bateau à vide qui va faire 30-50 tonnes. Et donc avec une capacité de charge qui double le poids, donc on va être quasiment à 100 tonnes une fois tout chargé. Mais ça reste un petit navire, ce qui nous permet en fait d'aller quasiment dans n'importe quel port, à l'inverse de gros cargos. Et sur le prochain navire, on estime qu'il sera, alors il n'est pas finalisé, complètement conçu, mais il sera entre 40 et 60 mètres sûrement. Et là aussi, on pourra aller dans la plupart des ports. À partir du moment où on dépasse les 80 ou 100 mètres, là on est limité au niveau des installations, des infrastructures portuaires. Et donc on ne va pas pouvoir aller partout. Ça va limiter au niveau de la capacité d'accueil. Donc nous, on a moins ce problème-là avec un navire plus modeste, on va dire. Par contre, il faut quand même à l'arrivée avoir les équipements pour pouvoir décharger ou charger d'ailleurs même. Donc on ne peut pas non plus aller dans un port de plaisance, ce qui n'aurait pas de sens. On est sur du transport de marchandises et donc il faut avoir du personnel et des équipements adaptés pour pouvoir charger, décharger, accueillir le navire dans les bonnes conditions quand même. Voilà, on a un peu de flexibilité là-dessus. Pour les routes, on va d'abord à New York. On ne va pas directement en Amérique latine. On va d'abord à New York où on sera chargé de vin français, donc bio, biodynamique et nature, que l'on va décharger pour distribuer dans la Grande Pomme et puis un peu les alentours. Ensuite, on descendra dans les Caraïbes pour nous approvisionner en cacao principalement, en masse de cacao principalement. Avec un peu de café, mais aujourd'hui, grain de sel, c'est 90% de chocolat. Donc, clairement, le navire va suivre nos besoins de production. Et on reviendra. Donc, on va passer par le nord à l'origine, enfin, à l'aller plutôt, pardon. À l'aller, on va passer, on va faire une route plus vers le nord qui va aller directement à New York. Ça nous permet d'éviter le risque cyclonique. Et puis après, on redescendra, du coup, on longera la côte est américaine pour arriver dans les Caraïbes. Caraïbes, et puis peut-être un petit peu du nord de l'Amérique du Sud. Ça va dépendre des routes et des années. Et puis après, on remontera, on passera vraisemblablement autour des Açores, peut-être même qu'on s'arrêtera si besoin, avant de revenir à Morlaix, enfin à Saint-Malo pour être plus précis, le port d'attache du navire étant à Saint-Malo.
Et pourquoi ce choix de partir sur du fret à voile, en fait? Quel est l'intérêt? Pourquoi?
Eh bien, en fait, il s'agit à notre petite échelle, hein, on ne va pas tout révolutionner, on ne va pas tout changer, mais à notre petite échelle déjà de dire que on peut, dans un monde moderne, où l'on a pris l'habitude de pouvoir consommer différents produits qui proviennent de loin, là où il y a une conscience générale sur ce qu'on consomme, et sur l'origine des produits que l'on consomme et l'impact sur l'environnement que toute notre consommation de manière générale peut engendrer. Donc on a tendance, pour beaucoup, à favoriser le local et le bio. Ça marche très bien avec beaucoup de produits. fort heureusement. Mais typiquement, des produits de tous les jours tels que le café et le chocolat, on ne les aura jamais en local. On n'a tout simplement pas la production proche de nous pour pouvoir le faire. Donc cela engendre des questionnements sur est-ce qu'on arrête de consommer tout simplement ces produits ? La réponse est très vraisemblablement non. Aujourd'hui, trop de personnes apprécient ces produits. Donc la réponse est plutôt autre part, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une démarche vertueuse tout en ne sacrifiant pas sur tous les points de notre consommation quotidienne. Et donc c'est là où le transport à la voile prend tout son sens, puisqu'on va pouvoir limiter grandement l'impact carbone, tout en permettant d'avoir des bons produits qui proviennent de loin. Donc en local, dans les pays producteurs, on travaille avec des fournisseurs, des agriculteurs qui travaillent en bio. Donc tous nos produits sont certifiés bio. Donc on a aussi, on s'assure de l'impact écologique en local en favorisant une culture raisonnée de ces produits. Et on les rapatrie de manière décarbonée dans des usines qui sont optimisées là également d'un point de vue énergétique. Et après, on les transporte, on les distribue dans un rayon, relativement diminué pour être plus proche de nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on a un point de production en Bretagne. On vend dans la Bretagne, un petit peu dans les pays de la Loire et un petit peu en Normandie. On est déjà en train de finaliser l'acquisition d'un terrain à Dunkerque pour pouvoir approvisionner le nord de la France et l'Île-de-France et peut-être un petit peu la Belgique. Donc l'idée, c'est que on ne veut pas faire tout ce travail pour après voyager des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres par camion sur terre. Donc pouvoir dupliquer en fait le modèle sur d'autres ports pour pouvoir approvisionner différentes régions du pays.
Et avec les bateaux à voile que vous avez, est-ce que c'est envisageable de même remonter le long des rivières ou il faut un port sur les côtes du pays ?
Alors les rivières, c'est un petit peu compliqué. Il faut déjà un tirant d'eau. Alors sur le navire que l'on a aujourd'hui, il faut un tirant d'eau, donc c'est-à-dire une profondeur d'eau de presque 4 mètres, donc constant, donc ça c'est vraiment le minimum. On ne peut pas aller partout, hélas. Et puis quand on aura des navires encore plus gros, ça sera encore plus de tirant d'eau. Donc c'est pas vraiment envisageable aujourd'hui. Par contre, on pourrait peut-être, même si c'est assez compliqué à faire, mais on pourrait peut-être imaginer des relais pour faire du transport sur les rivières et les fleuves. Aujourd'hui, on va dire que on essaye de contrôler ce que l'on peut contrôler en utilisant en faisant preuve un peu d'ingéniosité. Donc clairement ce navire de ce voilier cargo, ce premier voilier cargo est l'exemple même. Après on essaye de faire des choix également tout en reconnaissant la limite de ce qui est également disponible autour de nous. Donc on reste à l'affût de différentes solutions qui pourraient se présenter, mais il est certain qu'on ne peut pas on ne peut pas tout révolutionner non plus. Donc ça, c'est aussi un peu la limite de la stratégie. C'est-à-dire que nous, on est aussi dépendants de toute une infrastructure et tout un écosystème autour de nous. Déjà qu'on a fait une démarche forte par rapport à la construction d'un navire qui engendre un surcoût, il est difficile de continuer à faire du surcoût et du surcoût et du surcoût sur tout l'ensemble des activités au risque d'avoir du coup un produit qui n'est plus abordable pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est un équilibre qui est frustrant parfois parce qu'on aimerait pouvoir faire plus et on travaille avec nos différents fournisseurs, nos différents partenaires justement pour les encourager à aller plus loin. Que ce soit sur le transport, sur les packaging, sur plein de choses. Mais effectivement, on a déjà on va dire, énormément à gérer avec le côté armement maritime, que on accepte aussi que l'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain.
Alors, c'est marrant, la première fois que j'ai entendu parler du transport maritime à voile, c'était par Nicolas Hulot, qui disait, voilà, moi je crois vraiment dans le futur du transport maritime grâce à la voile. Et je me disais, enfin, honnêtement, enfin, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et après, j'ai découvert Grain de Sel et les autres entreprises qui sont engagées dedans. Et aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer en fait cette mutation du transport maritime vers du transport maritime à voile, qui est effectivement beaucoup moins carboné que le fret actuel?
Alors, y a déjà, nous, on est en train de démontrer que c'est possible. Donc, d'une certaine manière, on est en train d'abattre les barrières. Et ce qu'on souhaite faire, c'est entraîner d'autres. On a un projet qui est bien conçu, qui est viable sur tous les points de vue. Donc, déjà d'un point de vue maritime, ce qui est non négligeable, d'un point de vue économique également. Donc, il faut justement démontrer que c'est faisable. Notre approche et notre solution ne sera pas forcément la solution pour tous, et c'est pas grave, au contraire même, il faut qu'il y ait une multiplicité de solutions pour que le transport à la voile s'instaure de manière viable et durable. Donc nous, je pense qu'on fait partie des premiers qui vont être un petit peu en avance. Mais qui vont abattre ces barrières qui jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été vraiment franchies. Ce qui reste pour que, on va dire, beaucoup de personnes s'y mettent, eh bien, d'une part, je pense plus d'exemples comme les nôtres pour montrer que c'est vraiment faisable. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont un petit peu sceptiques, ce qui peut se comprendre également, hein. Donc démontrer qu'on est capable réellement de faire des allers-retours, des boucles transatlantiques, qu'on est capable de ramener des transports, enfin des marchandises économarins sont en sécurité, qu'il n'y a pas de risque particulier, etc. Donc ça, je pense qu'il faut aussi un petit peu donner le temps au temps de démontrer que ça marche vraiment. Qu'il y ait d'autres projets qui se concrétisent. Et donc là, ensuite, ce qu'il faut, c'est d'une part, eh bien, des aides des différentes administrations, que ce soit au niveau européen ou national. Nous, on a été soutenus par l'ADEME, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Donc eux ont la capacité de motiver et de soutenir financièrement des projets, en tout cas pour les amorcer. Et puis, ce qu'il faut autour, c'est une infrastructure économique et d'entreprise qui puisse justement apporter toutes les solutions, parce que nous, on s'est rendu compte que c'est pas, on demande des choses qui sont un petit peu hors du commun. C'est pas toujours évident de trouver les bons fournisseurs. Voilà, il y a tout un peu un écosystème qui doit se créer pour du transport maritime à la voile. Et je pense qu'au final, il faut aussi réussir à changer les mentalités. Donc, c'est-à-dire que des clients potentiels, puisque nous, à la différence de la plupart des autres projets, c'est qu'on est, on travaille pour nous-mêmes, on transporte pour nous-mêmes. Alors que les autres vont vraiment faire du fret pour autrui. Et donc, eux sont dans une stratégie de réussir à convaincre des clients potentiels de travailler avec eux par rapport à du cargo classique, par exemple. Et donc là, ça se passe d'une part par une approche philosophique, clairement. Mais aussi, et c'est ça aussi, je pense, le gros enjeu, par une réalité économique. Donc, les entreprises peuvent être convaincues philosophiquement, mais si ça va impacter les marges et rendre le projet trop difficile à réaliser, ça devient évidemment une barrière conséquente. Et donc là, aujourd'hui, ce que l'on voit avec d'autres projets, c'est qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire aujourd'hui. Et il y en aura d'autres, et il y en aura plus. Et plus il y aura de bateaux, plus il y aura d'entreprises qui auront ces premiers clients qui auront un peu amorcé la chose, plus d'autres entreprises suivront. Et puis après, les gros armateurs, eux, s'y mettront également. Enfin voilà, il y aura un effet boule de neige, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais nous et d'autres, il y a d'autres projets qui vont sortir assez rapidement d'ici 1 ou 2 ans. Sur des navires plus gros, sur des transports pour d'autres types de marchandises. Et donc, on s'attend à ce que pour la première fois, parce qu'il y a eu des tentatives, notamment dans les années 70-80, mais qui restent anecdotiques, et j'ai envie de dire d'une certaine manière un petit peu farfelues, parce que c'était vraiment des ovnis. Donc, nous, on est ovnis dans le sens où on est le premier à le faire, mais on n'est pas ovnis parce qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est important. Il faut réussir à motiver d'autres personnes, d'autres entreprises et des clients potentiels pour que toute cette filière en fait se développe de manière durable et pérenne.
Et ça passe par exemple comme des informations auprès des consommateurs sur enfin, l'empreinte carbone de leur chocolat ou de leur café. Ça passe par du recrutement dans des écoles pour des ingénieurs, des commerciaux et autres. Par quoi ça passe?
Oui, alors vous avez raison, effectivement, il y a un volet pédagogique, expliquer un petit peu les différences, tout comme quand on pense aux prémices de l'agriculture bio il y a une vingtaine d'années, voilà, il y avait besoin d'expliquer beaucoup, beaucoup de gens étaient un peu sceptiques, ça veut dire quoi, quelle est la différence? Et aujourd'hui, on voit bien que le bio est en train d'exploser depuis des années maintenant et continue, et ça s'est même accéléré avec la prise de conscience générale liée au Covid. Donc oui, je pense que ce sont des changements assez profonds dans les approches. C'est aussi présenter des nouvelles informations, tout simplement, parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et puis après, bah, motiver non seulement les consommateurs, d'une part, mais les entreprises. Donc il y a un volet, on va dire, consommateur et un volet entreprise. Les décisionnaires, tout simplement, les acheteurs. Eux qui sont en capacité de prendre ces décisions, réussir à les motiver, leur expliquer et leur démontrer que c'est faisable et que ça c'est bien, c'est bon pour l'entreprise et pour l'environnement. Et après, nous, par exemple, on fait des interventions dans les écoles, dans les lycées pour la formation des futurs marins, dans les institutions d'études supérieures pour donc les écoles maritimes. Donc nous, on collabore avec eux. On a alors ce premier voilier cargo étant assez modeste, on ne va pas pouvoir accueillir à bord des apprentis, des marins, mais le prochain navire, il est prévu qu'il y ait de la place pour justement accueillir des marins pour les former. Donc ça fait partie de tout ça, effectivement. Et puis, bah, évidemment, les médias ont un rôle à jouer aussi, puisqu'elles sont en mesure de pouvoir relayer ces messages et montrer des belles initiatives. Donc c'est un tout. Et en fond de toile, on va dire, il y a une dimension, une volonté politique qui doit être aussi visible, parce qu'au final, c'est eux qui sont capables d'accélérer des développements ou de financer aussi des initiatives. Donc c'est un tout, il est certain. Nous, on le voit très bien sur grain de sel au niveau de la vente de nos chocolats et des cafés. En l'espace de... la partie chocolaterie de grain de sel a démarré en 2016. Ça fait que 4 ans, c'est vraiment très récent. Avant ça, on faisait un peu de café, on démarrait tout juste. Le chiffre d'affaires a été relativement bas. Donc, on va dire vraiment à partir de 2016, quand les chocolats ont démarré. Cette année, on va franchir la barre des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On reste une entreprise très petite, mais en 4 ans, atteindre ce chiffre d'affaires démontre quand même que notre concept résonne auprès des consommateurs. Il y a une prise de conscience générale. Il y a une attente pour avoir des produits qui sont plus vertueux. Et que ce soit sur le côté bio, sur le côté produit en local, ou le côté transport à la voile, j'ai envie de dire, peu importe, c'est peut-être un tout, mais certainement le transport à la voile fait partie aujourd'hui des préoccupations, non pas le transport à la voile en particulier, mais la dimension écologique de mon achat a une importance aujourd'hui auprès des consommateurs. Donc nous et d'autres, je pense, auront la capacité à apporter d'autres solutions aux consommateurs qui se posent ces questions-là. Et puis au fur et à mesure, comme on peut le voir avec le bio par exemple, eh bien, ça va s'étendre à plein de types de produits et ça ne sera pas juste des produits un petit peu plaisir comme les nôtres. Ça sera à l'avenir, on peut l'espérer, tout type de produits de consommation du quotidien.
Alors, moi, je suis assez d'accord avec vous. Il y a d'abord cette prise de conscience au niveau du consommateur, mais pas que. Quand on regarde les récents rapports de l'Agence internationale pour l'énergie, qui nous explique que, en gros, en Europe, en tout cas, par rapport aux pays producteurs en pétrole chez qui l'Europe se fournit, d'ici 5 à 10 ans, il y a presque la moitié des possibilités d'importation de pétrole qui sont mises en danger par le fait que ces pays ont atteint leur pic pétrolier ou vont l'atteindre dans les années qui arrivent. On se dit qu'effectivement, penser le transport maritime à voile est vraiment un métier d'avenir. Et en plus de ça, alors dans ce podcast, dans Oser, on parle beaucoup aussi aux gens qui sont en reconversion, qui se posent des questions, qui sont un peu désenchantés. Et du coup, par rapport à ces deux situations qui avancent en parallèle, le fait que on a l'impression d'aller vers la fin du pétrole finalement, et en même temps une volonté de bio, de bas carbone, quelles sont les possibilités pour des étudiants ou des ingénieurs ou autres aujourd'hui qui veulent se reconvertir, se former ou travailler, s'engager dans le transport maritime à voile? Comment est-ce qu'on fait? Par où on commence?
Ouf, c'est une grosse question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore peu, voire trop peu, hein, de formations qui sont vraiment liées à l'économie verte. Nous, nos marins sont issus d'écoles maritimes, on va dire classiques, et là, ils ont tous travaillé dans de la marine marchande et de la marine parfois liée au pétrole, etc. Et eux, tous les marins nous disent, alors il y a quatre marins à bord du Grand Sail, mais nous disent qu'ils recherchaient du sens dans leur travail. Donc les compétences acquises ne sont pas à jeter. Par contre, il y a peut-être un défaut sur les débouchés aujourd'hui. Et on voit que, alors les marins que l'on a en plus sont jeunes, ils ont alors vingtaine et puis plutôt trentaine pour capitaine et le lieutenant et le second, pardon. Mais ce sont des formations de base qui sont tout à fait adaptées. Mais peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de débouchés derrière sur des entreprises qui seraient plus vertueuses. Donc voilà, c'est vrai que la formation est peut-être pas encore tout à fait au rendez-vous et surtout, en fait, la formation a tendance à suivre le marché. Donc il faut créer un marché et après il y aura plus de formation et il y aura aussi plus de débouchés. Donc c'est un tout, hein, et c'est pour ça que nous, justement, on veut travailler avec, que ce soit des lycées ou des écoles supérieures pour la formation des marins, pour justement leur permettre de venir travailler avec nous. Et les autres projets, ou certains des autres projets en tout cas, qui sont... qui vont se concrétiser dans les mois et années à venir. Plusieurs sont portés par des marins professionnels qui ont travaillé dans des contextes classiques, on va dire. Donc, c'est aussi ces personnes-là qui vont être un peu moteur justement pour faire évoluer toutes les perceptions. Nous, on reste relativement petit, hein, on est une trentaine de salariés en direct avec en parallèle une vingtaine de salariés en situation de handicap. Donc on travaille avec une association pour l'insertion au travail d'handicapés, que ce soit physique ou mentaux. Donc on a, on va dire, une cinquantaine de personnes chez nous. On reste une petite entreprise. Et c'est là aussi où il faut justement qu'il y ait plein d'autres initiatives qui se concrétisent pour justement recruter des types de personnes qui sont convaincues par ça. Et puis après, derrière, pouvoir motiver les écoles et les centres de formation pour proposer des formations spécifiques. Donc voilà, c'est un tout, hein, on est d'accord.
Et comment on fait alors pour porter ce genre d'initiative? Vous soutenez des projets qui veulent se lancer? Vous accompagnez des porteurs de projets sur même de la formation, de l'apprentissage? Il y en a qui le font? Puisque, enfin, on peut se dire, ouais, c'est génial, j'ai envie de me lancer dans le transport à voile, mais finalement, comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on fait en fait?
Ouais, alors aujourd'hui, non. On fait de l'information, pas de la formation. On fait du partage et du retour d'expérience au sein, par exemple, de l'association Winship. Et donc, l'association Winship, elle, a un volet donc politique, bien évidemment, comme toute association. Elle sert un peu de lobbying pour la filière complète. Et derrière, justement, travaille à promouvoir aussi des partenariats avec différentes entités pour apporter les solutions d'un point de vue, on va dire, plus global, infrastructurel. Et puis après, on travaille évidemment avec les autres membres de l'association. Donc, pour se lancer aujourd'hui, il est vrai que il n'y a pas encore de voie claire. Donc, les premiers qui sont en train de concrétiser, ou comme nous qui ont déjà concrétisé, il y en a peu. Et là, effectivement, on reste des exceptions. Mais moi, je peux compter déjà sur les doigts d'une main les projets qui sont en phase de se concrétiser d'ici, on va dire, 1 à 2 ans. Donc, déjà, il y aura plus qu'aujourd'hui. Et dans 10 ans, et dans 5 ans, il y aura plus encore. Donc, je pense que les opportunités sont aujourd'hui assez limitées. Une chose est certaine, c'est que pour faire du transport maritime à la voile, il faut obtenir des diplômes de marine marchande. Il faut faire une école de marin. Nous, on a des personnes qui collaborent avec nous, qui ont fait de la voile de plaisance, donc du transport de passagers, sur des gros voiliers même. Hein. Mais ce sont des très bons voileux, mais ils ne sont pas habilités, n'ayant pas les diplômes, pour faire du transport maritime de marchandises. Et donc ça, c'est aujourd'hui quand même la condition sine qua non. Puisqu'on est assujetti aux normes internationales de marine marchande, il faut que le personnel navigant soit issu des écoles formatrices, justement, avec tout le cursus associé pour obtenir un diplôme de marin. Donc ça, en tout cas, ça reste quand même la base. Tout marin n'est pas voileux, par contre. Et tout voileux n'est pas... Je ne veux pas dire n'est pas marin, mais n'est pas marin, marine marchande. Donc ce sont des compétences complémentaires. Alors, beaucoup de marins sont quand même voileux dans leur temps libre. Mais nous, aujourd'hui, on est sur des compétences hybrides, puisqu'il n'y a pas de formation à proprement parler pour être marin à la voile, de marine marchande. Donc nous, on a des marins avec des diplômes, mais on a aussi des voileux. Et ils sont en mesure de faire ça, mais ça reste une hybridation de compétences. À terme, on peut s'attendre tout à fait à avoir des diplômes, ou en tout cas avec des sortes de certifications qui diraient, voilà, cette personne-là est habilitée pour piloter un voilier cargo. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
Et si on veut aller un peu plus loin dans la compréhension, creuser un petit peu ce métier, vous conseillez d'aller voir l'association Winship, justement? C'est ça ce qu'il y a de mieux?
Oui, et puis ils sont en train de finaliser la rédaction d'un livre blanc. Alors je ne sais plus quand ça va sortir, mais ça sortira dans les quelques mois prochains. Et justement, qui fera un petit peu un bilan sur le transport à la voile aujourd'hui, sur l'écosystème, sur les difficultés, sur la formation, j'imagine aussi. Donc voilà, c'est un livre blanc qui sera assez complet. Qui permettra justement de donner, c'est ça tout l'enjeu pour eux, une feuille de route sur les initiatives et les étapes à franchir. Et donc il y aura des recommandations et des préconisations d'un point de vue législatif, bien évidemment, politique d'un point de vue notamment finances publiques, comment soutenir cette filière. J'imagine qu'il y aura un volet sur la formation. Et puis, voilà, ça, c'est une super initiative qui est nécessaire. Donc, de manière générale, c'est aussi, et c'est ce vers quoi, enfin, ce à quoi on œuvre tous ensemble, c'est qu'il ne faut pas que ces initiatives restent des exceptions. Et donc, il faut réussir un petit peu à organiser toute cette filière pour qu'elle se renforce, pour qu'elle soit plus visible, pour qu'elle ait les moyens de réussir, pour qu'elle puisse échanger, partager déjà entre nous, ce qui est non négligeable, mais aussi avec le public de manière générale. Donc voilà, pour nous, alors ce seront pas les seuls, il y aura sûrement d'autres choses qui viendront à côté, et tant mieux, mais aujourd'hui c'est Winship pour nous qui est vraiment aux premières loges de l'organisation de la filière.
Stéphane, merci beaucoup pour ce témoignage et pour partager tout ce que vous avez pu faire avec Grainsail aujourd'hui, votre business model et ces innovations dans le transport maritime. Moi, je trouve personnellement que c'est absolument génial et je vous souhaite vraiment bon courage et j'allais dire bon vent pour les prochaines années.
Merci, c'est très gentil. Et suivez évidemment les aventures de Grain de Sel. Le navire part en novembre là pour de Saint-Malo pour New York, et puis prendra 3 mois pour compléter la boucle et revenir en Bretagne. Donc suivez cette première aventure, et puis il y en aura d'autres, que ce soit nous ou d'autres entreprises. Donc on souhaite bon vent non seulement à notre équipe, mais aussi à tous nos confrères.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!